Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France, il est 9h.
RTL Matin,
laissez-vous tenter,
avec Yves Calvi.
Et dans un instant, avec grand plaisir, nous ouvrirons un roman qui sort du lot en cette rentrée littéraire. Bakita de Véronique Olmy, Bernard Lehu a rencontré l'auteur. Nous rejoindrons Stéphane Boutsock au Festival du cinéma américain de Deauville. Laura Dern et Jeff Goldblum seront prochainement à l'affiche de deux films extrêmement attendus, Star Wars 8, Les Derniers Jedi et Jurassic World 2, à suivre leurs confidences. La Normandie décidément à l'honneur ce matin puisque le tableau iconique Impression Soleil Levant de Claude Monet s'apprête à quitter Paris. Pour le musée d'art moderne du Havre, Monique Younes nous racontera les coulisses de ce prêt exceptionnel. Et puis à la télévision ce soir, sur France 3, un épisode très réussi de la série La Loi 2. Ce sera l'un des choix d'Isabelle Morini-Bosque.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Bernard Lehu, on poursuit avec vous ce matin la visite de votre bibliothèque idéale de la rentrée. Elle est garnie. Vous avez donc particulièrement aimé le nouveau roman de Véronique Olmy, Bakita, qui est publié chez Albin Michel.
Ah oui, Bakita, c'est la plus belle, la plus étonnante, la plus émouvante, la plus héroïque des héroïnes. Pardon pour le pléonasme de la rentrée littéraire, mais il fallait insister là-dessus.
Et en plus, Bakita n'est pas un personnage de fiction. Elle a bel et bien existé.
Mais oui, destin inouï d'une petite Africaine née au Soudan à la fin du 19e siècle, enlevée à l'âge de 7 ans par des marchands d'esclaves, vendue, humiliée, martyrisée, jusqu'au jour où sa vie bascule. Rachetée par le consul d'Italie à Khartoum, elle part à Venise, où, affranchie après un procès retentissant, elle se convertit à la religion catholique, se fait religieuse au service des enfants perdus. Bakita sera canonisée en l'an 2000 par Jean-Paul II, devenant ainsi la première sainte africaine et noire.
Alors, ce qui est incroyable, Bernard, dans cette histoire, c'est que ni vous ni moi, comme sans doute la plupart de celles et ceux qui nous écoutent, ne connaissions Bakita.
Oui, alors je vous rassure, c'était le cas aussi de Véronique Olmy, qui découvre par hasard une statue de la sainte dans une église de Touraine. Fascinée, ouais. La romancière, vous verrez la photo sur la couverture du livre notamment, en plus elle est magnifique, cette Bakita. Donc fascinée, Véronique Olmy abandonne le livre qu'elle est en train d'écrire à l'époque et se lance sur les traces de Bakita en Italie.
Ce qui m'a bouleversée dans ce parcours hors norme, c'est qu'elle avait oublié son nom. Voilà, ce détail-là m'a bouleversée. Alors, sur le moment, je ne pouvais pas l'analyser. J'étais au-delà de l'analyse. J'étais vraiment dans la subjugation. Je me suis dit, c'est incroyable parce qu'en fait, on est tous bâtis sur l'enfance et ce récit de l'enfance que nos parents nous ont fait. Que ce soit les témoins, que ce soit les photos, que ce soit les lieux, on est pétri de souvenirs qui nous appartiennent plus ou moins. Et elle n'avait rien de tout ça. Et elle a eu tellement peur quand on l'a kidnappée, cette petite fille à 7 ans, qu'elle a oublié son prénom.
Parce que Bakita, ce n'est que son nom d'esclave, imposé par ses maîtres musulmans, Bernard.
Exactement. Et alors, ce qui est remarquable dans ce livre, c'est l'art et la manière de Véronique Olmy de mêler la rigueur de sa documentation sur l'esclavage en Afrique, le souffle romanesque de l'Odyssée de Bakita et la finesse psychologique du portrait de son héroïne, véritable miraculée du mépris et de la barbarie, qui, une fois libre, consacrera sa vie donc à l'amour de l'autre.
C'est pas un hasard si elle va vers un ordre qui s'occupe des enfants perdus, des petites filles perdues, des orphelines. Je crois qu'elle avait besoin de rendre quelque chose parce qu'elle avait quand même la culpabilité des survivants très fort. Il y avait tous ces êtres qu'elle avait aimés, qu'elle n'avait pas pu sauver, qu'elle a laissés au Soudan. Et cet ordre canossienne lui a permis à la fois d'aider les plus pauvres et ensuite de s'autoriser à être aimée.
Alors j'ai demandé à Véronique Olmy quelle leçon peut-on tirer pour le temps présent de ce parcours édifiant de Bakita.
Son destin nous dit que rien, hélas, ne change. L'exploitation de l'homme par l'homme est partout la même et que là-dedans se faufilent des justes. Et qu'il y a des interstices de lumière, c'est pas un terme religieux. Et que la vie, Bakita, moi, m'a appris une chose, c'est que la vie est un cadeau. Elle s'est tellement battue pour la sienne, ça veut dire qu'elle la respectait. Il faut, enfin moi, je crois qu'il faut essayer d'avoir un peu plus de gratitude pour tous les privilèges qu'on a, parce qu'aujourd'hui, il y a encore l'esclavage. Et c'est une résistance, cette femme-là. C'est une grande leçon de vie.
Voilà, Bakita. Alors croyez-moi, une fois le livre refermé, impossible d'oublier cette merveilleuse héroïne. Alors Véronique Olmy, ça c'est intéressant, l'auteur elle-même reste habitée aujourd'hui encore par son personnage.
C'est vrai que Bakita, pour moi, c'est une rencontre et qui perdure après l'écrit. C'est vrai que c'est...
C'est la première fois que ça vous
arrive ? Ça, c'est la première fois. Alors je ne sais pas si... J'ai un plaisir immense à parler d'elle. Et j'ai l'impression qu'elle est tout le temps là et qu'elle m'accompagne. Alors je dis ça avec beaucoup de prudence parce que je ne voudrais pas apparaître comme une pauvre illuminée. Mais il y a des choses dans la vie qui sont belles, qui sont mystérieuses. Donc il ne faut pas trop analyser. Mais c'est vrai qu'elle est là.
Ben oui. Alors elle est là grâce aussi au talent de Véronique Colmy. Appréciée jusqu'à présent en tant que romancière des tourments amoureux, des drames familiaux, intimes, on en a souvent parlé ici. Et alors elle s'épanouit ici dans un registre inédit pour elle, historique, épique, d'une ampleur nouvelle. Chapeau, hein, sincèrement. Alors du coup, on se dit que Bakita ferait un beau prix de l'automne, pourquoi pas le Goncourt, dont la première liste sera révélée d'ailleurs tout à l'heure vers 13h chez Drouan.
Bah, ne soyons pas hypocrites, on est là pour ça. Si on veut pas de prix, on sort pas à la rentrée parce que on est nombreux. Il y a une émulsion, mais il y a aussi une violence. C'est une exception culturelle française formidable. Tout le monde dans les maisons d'édition, les journalistes, les responsables de festivals, tout le monde est mobilisé sur ce moment-là, ce que je trouve à la fois violent et merveilleux. Et vous dire que je pense pas au prix, alors autant sortir au mois de novembre. Bien sûr, j'y pense.
Bon, ben, je vous remercie, je vous félicite pour votre sincérité, Véronique Colmy. Et j'espère qu'elle sera payée de retour.
Ça, c'est pas très grave, mais je veux pas être hypocrite.
La belle franchise de Véronique Colmy qui publie. Oui, Yves,
vous avez un dubitatif. Oui, c'est agréable, justement, d'oser le dire.
Donc, Véronique Colmy publie chez Albin Michel Bakita, la petite esclave devenue sainte. L'entretien complet de Véronique Colmy est à retrouver sur RTL.fr.
A tout de suite pour nos audiences télévisées. Et puis, on va partir en Normandie, hein, où se déroule le 43e festival du film de Deauville avec plein de personnes passionnantes et sur place Stéphane Boutsock, notre envoyé spécial.
RTL, laissez-vous tenter 9h06. Vous rêvez d'agrandir votre maison, de créer une pièce lumineuse en plus ou encore de couvrir votre piscine. Alors pensez Rénoval. Du 4 au 23 septembre, Rénoval, le premier réseau national de véranda et abris de piscine, vous offre jusqu'à 3000 euros de remise sur les 200 premières commandes, voire modalités en magasin ou sur rénoval.com. Rénoval, la vérandatitude.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Bonjour, c'est Julien Courbet. Problème avec votre voiture? Eh bien, écoutez l'émission en direct à 9h30 avec celui qui revient, Tonton de Comment est revenu. Les PV, les arnaques, il en a le cul cousu. A tout à l'heure, quel que soit votre problème, 32-10.
Bien vivre la ménopause avec Manae. Claire, 58 ans.
La ménopause, c'est pas une maladie. Alors quand ça a été mon tour, j'ai voulu passer le cap naturellement. Avec Manae, j'ai trouvé la solution d'origine naturelle sans hormones et je me sens naturellement bien.
Manae, une capsule par jour pour préserver votre féminité. Manae, des laboratoires NutriSanté. Demandez conseil à votre pharmacien. Pour votre santé, bougez plus.
Je vends ma voiture. 5 ans, 110 000 km. Une affaire.
Parfait. Mais avant, vous devez effectuer le contrôle technique de votre véhicule. C'est obligatoire.
Ah, j'avais zappé.
En ce moment, en passant commande sur oscaro.com, bénéficiez de 15% de remise sur votre contrôle technique avec Sécuritest et Autosécurité.
15%? Merci, Oscaro.
Voir conditions sur le site. Oscaro.com, reprenez votre voiture en main.
Bonjour, je suis votre conseiller MAF Pro. Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, comme dit notre Miss MAF, je vous confirme qu'il n'y aura pas d'augmentation des cotisations santé individuelles MAF en 2018 pour vous, travailleurs indépendants. Et pour ceux qui n'ont pas encore de contrat santé MAF, si vous souscrivez avant le 31 octobre, nous avons aussi une offre de 2 mois gratuits. 2 mois gratuits et pas d'augmentation en 2018. Ça, c'est pro.
C'est MAF Pro.
Et c'est pour vous, les pros. Conditions au 30-15, services et appels gratuits et dans les agences MAF.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvin.
9h09, jingle, médiamétrie, Isabelle Morini-Bosque.
Alors évidemment, je vais vous dire rapidement que la Mente sur TF1 a bien commencé. 5 700 000 téléspectateurs et L'amour dans le pré, toujours 4 700 000, inaltérable. Mais évidemment, l'attention de tous était concentrée hier sur ce qu'on appelle les access. Donc Quotidien, qui n'avait pas cessé, redémarre avec une forte audience, 1,5 million. Touche pas à mon poste, quasiment 1,4 million. Et Anne-Sophie Lapix, aux 20h de France 2, est devant TF1. Il y a un appel de curiosité. 5 800 000 téléspectateurs contre 5 600 000 pour TF1 et France 2 est leader aussi en part de marché avec 25% du public hier sur la 2 à 20h. C'est à vous sa moyenne, 788 000 téléspectateurs. Et vous, Yves, vous Dites-moi. Doublez l'audience d'avant les vacances puisque vous faites 187 000 et que l'audience du Grand Journal était tombée à nettement moins de 100 000 en juin.
On va continuer le travail.
On se retrouve dans quelques instants pour votre oui. programme télévisé. On part maintenant à Deauville pour retrouver notre camarade Stéphane Boutsock. C'est le 43e festival du film américain. Stéphane, vous suivez l'événement sur place pour nous et vous nous proposez ce matin une rencontre avec deux grands noms d'Hollywood.
Oui, et Ladies First, honneur aux dames. Laura Dern était l'invitée du début de festival, fille des comédiens Diane Ladd et Bruce Dern, actrice fétiche, on s'en souvient, de David Lynch, dans Sailor et Lula ou Blue Velvet. On a aussi vu sa longue silhouette dans Jurassic Park de Spielberg. Un monde parfait d'Eastwood, elle sera en décembre à l'affiche de Star Wars 8, Les Derniers Jedi, dans le rôle du général Holdo, figure de la résistance. J'ai donc demandé à Laura Dern de m'en dire plus.
I had the time of my life.
Ça a été l'expérience de ma vie et je ne dis pas ça à la légère. J'adore le cinéma, être sur un plateau, créer un personnage, travailler avec un réalisateur, des acteurs, une équipe. Pour moi, c'est comme être en famille, sans doute parce que j'ai vu mes parents évoluer dans ce milieu. Mais là, inventer ce personnage, apprendre mon texte, être dans ma loge et revêtir son costume jusqu'au moment où l'on dit moteur et en ouvrant les yeux me retrouver dans Star Wars, c'est le truc le plus dingue que j'ai connu. C'est même plus fou que David Lynch pour moi parce que je me revois à 7 ans dans ma chambre jouant à la Guerre des Étoiles comme nous l'avons tous fait. Sauf que là, j'y suis vraiment, c'est hallucinant. À un moment, j'étais sur le plateau et Rian Johnson, le réalisateur, arrive en me demandant « Oh Laura, tu as fait connaissance avec Chewbacca, mais où je suis ?»
Stéphane, on vous a perdu ? Je ne peux pas le croire un seul instant. Alors, je vous rappelle que nous sommes donc en direct, normalement, du 43e festival du film américain de Deauville, qu'on va reprendre contact avec notre... On va au Havre ? Bon, on va au Havre, on est d'accord. Alors, je vous explique la situation. On a une rupture de faisceau avec Stéphane. Non, c'est pas très loin de Deauville, merci de m'aider. Et on va faire un point tout de suite avec Monique Younes, qui est là, comme une reine.
Oui,
on repartira dans nos histoires de Jedi dans quelques instants, avec mon camarade Stéphane Boutsock. Alors Monique, vous nous emmenez-vous ce matin au musée Marmottan en Monet à Paris, musée qui, rappelons-le, possède le premier fonds mondial d'œuvres de Claude Monet, dont le tableau Impression Soleil Levant, tableau qui a donné son nom aux impressionnistes, et bien ce tableau quitte Paris cette semaine pour être exposé au musée d'art moderne du Havre. Et c'est une première.
Ben oui, pour ce chef-d'œuvre historique, c'est un retour aux sources de sa création, puisque ce tableau représente une vue panoramique sur un port industriel au soleil couchant. Il a été peint par Claude Monet au Havre en novembre 1872. Et si le tableau a participé à une vingtaine d'expositions nationales et internationales, il n'a encore jamais été présenté au Havre, Yves.
Pourquoi, Monique ?
Oui. Eh bien, parce que les musées du Havre ne l'ont jamais demandé. Et c'est seulement maintenant, à l'occasion du 500e anniversaire de la ville, que le musée d'art moderne du Havre a eu l'idée de concevoir une exposition Impression Soleil à partir du 10 septembre autour du tableau de Monet. Il s'agit par la même occasion de montrer le dynamisme artistique du Havre au 19e siècle, m'a précisé Marianne Mathieu, la directrice adjointe du musée Marmottan.
Ce paysage normand va inspirer les peintres. Alors, il y a Boudin, Dufy, qui est originaire du Havre, ou de Félix Vallotton.
Alors, un tableau aussi iconique que Impression Soleil Levant, il voyage comment ? Est-ce qu'il voyage en voiture ? Il voyage en train ?
Il voyage en toute discrétion. Et c'est le meilleur moyen pour voyager. Donc on décroche les tableaux, bien évidemment, comme tous les tableaux du monde. Ils sont examinés par des restaurateurs pour s'assurer de leur parfait état de conservation. Et le reste du voyage est un voyage confidentiel.
Oui, alors vaut mieux que le tableau voyage discrètement, parce que déjà en 1959, excellente année pour les Bourgognes, il était déjà estimé à 50 millions de francs.
Oui, parce que passé un certain seuil d'estimation, on estime l'œuvre comme inestimable. Ah ben alors oui. Le musée Marmottan, en attendant de retrouver sa Joconde impressionniste le 8 octobre, va présenter plus d'une centaine de toiles pour sa grande exposition automnale Monet Collectionneur.
Alors, il est vrai que Monet collectionnait des estampes japonaises, que l'on peut voir aussi dans sa maison de Giverny.
Oui, oui, mais vous ne verrez pas seulement ça au musée Marmottan Monet. C'est une partie inédite, secrète de la vie de Claude Monet que l'on va découvrir dans cette exposition. Car Monet, toute sa vie, a collectionné des toiles qu'il accumulait dans sa chambre à coucher, à l'abri des regards indiscrets. On estime qu'il avait à sa mort plus de 130 toiles de maître, des contemporains pour la plupart. Beaucoup de ces tableaux ont été vendus à sa mort par son fils, Michel Monet, et il a fallu 4 ans de recherche pour arriver à reconstituer cette collection, dont les premiers tableaux sont des cadeaux d'amis peintres, m'a appris Marianne Mathieu.
Ce sont vraiment des cadeaux d'amis qui l'ont croqué un jour en plein air dans son jardin, ou qui l'ont représenté avec son épouse, ou qui l'ont peint en uniforme. Ça nous montre un Monet, j'allais dire, qu'on ne connaît pas physiquement. Nous, on connaît le patriarche, l'homme barbu, bien portant. Et là, on voit un Monet jeune en uniforme, on voit un Monet dandy. Et donc, ça nous fait découvrir une facette tout à fait inconnue de Claude Monet à travers des portraits très intimes qui ont été faits par des compagnons de jeunesse.
Alors, ces tableaux signés Pierre-Auguste Renoir, Charles Lullier ou Edmar Manet ont une valeur sentimentale. Mais à partir de 1879, Monet va commencer à échanger des tableaux avec ses amis Caillebotte, Berthe Morisot, Camille Pissarro et aussi Rodin. Rodin, le seul sculpteur que l'on retrouve dans la collection de Monet, Rodin qui lui offre deux bacchantes sans lassant.
Ce qui est drôle chez Rodin, alors, il faut le dire, c'est un peu coquin. Monet est un homme extrêmement sérieux. Et Rodin va toujours offrir à Monet des œuvres avec une certaine dimension érotique. Et d'ailleurs, on ne sait pas où Monet pouvait les conserver, mais c'est vrai que c'est quand même un éclairage tout à fait singulier sur cette collection.
Mais alors, toute la collection de Monet est le fruit d'échanges entre artistes ?
Non, non, parce que dès qu'il commence à avoir de l'argent, c'est-à-dire vers 1890, Monet va acheter des tableaux en vente publique ou chez des galeristes. Il va acheter Eugène Boudin, Jonquinte, Corot, Delacroix. Mais les artistes les mieux représentés dans sa collection sont Renoir et Cézanne, qu'il achète très tôt, très cher, pour soutenir ses amis.
On peut dire qu'il avait bon goût, et puis si je comprends bien, c'est le panthéon artistique et sentimental de Monet que nous verrons au musée Marmottan dès le 14 septembre.
Oui, et on se demande que cherche Monet chez les autres peintres de son temps. Lui, le paysagiste, le peintre de l'éphémère, marqué par le japonisme. Il se passionnait pour Renoir, le peintre de la femme, des baigneuses orientales. Lui, Monet, le peintre des vapeurs, de la diffusion, de la confusion. Il pouvait aussi apprécier et même se passionner pour Cézanne, le peintre de la structure, de la dureté des choses, de la rudesse des êtres. Et on comprend tout au long de cette exposition exceptionnelle que si Monet accumulait ainsi, c'est moins par vanité de collectionneur que par curiosité de chercheur, et pour se rassurer peut-être quant à son originalité au milieu de tous les autres. Il y avait bien un seul Claude Monet, et c'était lui.
Merci beaucoup, Monique Younes. Alors, après un léger crachin qui a traversé l'ouest de la France,
nous allons partir
vers Deauville et la Normandie. Alors, on en était en gros à cette idée que, pour ce Star Wars, il se murmure que Laura Dern aurait de grandes scènes avec Carrie Fisher.
Eh ben oui, on se souvient évidemment de Carrie Fisher, la princesse Leia disparue à Noël l'an dernier. Écoutez Laura Dern.
Alors, je ne peux pas dire avec qui j'ai joué parce qu'ils souhaitent que l'histoire reste secrète, mais je l'ai évidemment côtoyée sur le plateau. Vous savez, je la connaissais un peu grâce à des amis communs et c'était quelqu'un d'extraordinaire. Vous savez, les gens parlent beaucoup de Wonder Woman, un film incroyable que j'ai adoré voir avec ma fille. Mais Carrie avait joué ça dès les années 70. Elle avait inventé une super-héroïne incroyable. C'était une femme audacieuse qui osait parler de tous ses troubles mentaux, sa famille, sans jamais s'épargner. Elle nous a fait un cadeau en assumant. Oui, je suis un être humain, avec ses combats, voici ma vie. C'est une des personnalités publiques les plus inspirantes que nous ayons eues et vous n'imaginez pas comme elle va nous manquer.
Alors Les Derniers Jedi sortira le 13 décembre en France. On verra Laura Dern également en janvier avec Matt Damon et Christoph Waltz dans Downsizing, film d'Alexander Payne qui raconte, figurez-vous, comment face à la surpopulation, les scientifiques proposent de rapetisser les humains à la taille de 13 cm.
C'est très bien, très suffisant comme ça. Hein. Alors, puisqu'on parle de taille, à Deauville, vous avez quand même réussi à rencontrer Jeff Goldblum. 1m94
1m94, exactement. Grand bonhomme dans tous les sens du terme. Lui aussi a reçu son hommage ici. Des copains d'abord à Jurassic Park, de La Mouche à Independence Day, de Annie Hall de Woody Allen au prochain Marvel, Thor. Il trimballe cette longue carcasse et sa voix de stentor sur les plateaux depuis 45 ans maintenant, figurez-vous. Et la vocation, écoutez, lui est venue tout gamin.
Étant enfant, c'est une idée qui m'a obsédé très tôt et je la gardais secrète. Je me souviens que dans la douche, chaque matin, j'écrivais sur la porte embuée « Mon Dieu, faites que je devienne acteur !» Et ça s'est réalisé. J'ai en plus eu la chance très tôt de rencontrer de bons metteurs en scène pour de bons films. Ça n'arrive pas si souvent, même à de bons comédiens, et ça continue régulièrement depuis des années, ce qui n'est pas fréquent non plus.
Pretty regularly over a few decades. That's not so common either.
to come here, and that's the result of all that, you know. And
donc venir ici, c'est le résultat de tout cela. Je suis avec ma femme qui est française, mon fils Charlie qui a 2 ans et son frère de 4 mois. Et c'est une expérience merveilleuse.
So we've just been going around a little bit. We took a walk on the beach.
Nous sommes allés nous balader sur la plage, ramasser des coquillages. Nous avons dégusté un plat de moule. Je reviendrai ici sans obligation, juste pour les vacances.
You know, I'd come here for a vacation for no reason at all.
Alors, je vous parlais de Jurassic Park. Eh bien, Jeff Goldblum fera son grand retour dans la saga pour Jurassic World 2.
Yes.
Dans la peau et les costumes mal fagotés du professeur Malcolm. Il nous en dit plus ce matin.
C'est génial parce que j'avais passé du bon temps sur les deux premiers, qui remontent à quelques années. Hein. Ça m'a excité qu'il m'appelle pour revenir, même pour un petit truc. On retrouve l'humour de mon personnage, mais avec plus de profondeur, celle que vous donne la vie, mais aussi un vrai sens de l'éthique. Il ne s'agit pas juste de faire un film de divertissement. Mon personnage dit des choses intéressantes sur le monde d'aujourd'hui, la vérité des faits scientifiques, la manière dont nous devons être respectueux, intelligent et sensible envers la nature. Ça m'a beaucoup plu. Et j'ai adoré trouver les bonnes fringues pour l'incarner à nouveau.
Sortie prévue de Jurassic World 2. On a un petit peu de temps. Ce sera
pas lui demander de nous faire des jingles.
C'est incroyable.
Alors, merci pour ces deux merveilleuses rencontres, Stéphane. Votre programme à venir ?
Oh ben quelques petits jeunes également d'ici la fin de la semaine. Antonio Banderas, ça sera demain. Michel Rodriguez de la saga Fast and Furious. Oui. Et puis, on nous terminerons avec Woody Harrelson, figurez-vous. Donc, je vous raconte tout ça dans les jours qui viennent.
On est heureux de vous savoir là-bas. Et on est surtout heureux d'avoir vos comptes rendus de ce magnifique 43e festival du film américain de Deauville. On vous laisse prendre une petite ondée sur la tête. Et puis, on parle télévision dans un instant.
RTL Matin, laissez-vous tenter la suite dans un instant.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
La télévision, notre soirée avec Isabelle Morini-Bosque. Isabelle, vous êtes très fiction hein, ce soir. Mm-hmm. On va d'abord sur France 3 qui propose La Loi de Julien avec le comédien Jean-Pierre Darroussin.
Oui, Jean-Pierre Darroussin qui succède à Suzanne Blasco, Gérard Jugnot, Daniel Prévost, Richard Anconina et Zabou Breitman dans le rôle d'un avocat en charge d'un cas difficile. La Loi 2, c'est ce qu'on appelle une collection. C'est mm-hmm. chic. C'était simplement en 2014 une série subtile et intelligente avec Suzanne Blasco en avocate portant doublement bien la robe. Mais comme elle avait déclaré forfait après 3 tournages, Gérard Jugnot avait à son tour assuré 3 fois. Le rythme s'est ensuite accéléré avec 1 tournage, 1 acteur. La Loi de Julien, c'est pour moi franchement l'un des 3 meilleurs, sinon le meilleur, parce que là, notre magistrat va tomber dans un piège diabolique. Tout commence dans un hôtel de luxe où Julien, orphelin jadis adopté par un couple formidable, notamment Claudia Cardinal, rencontre par hasard son demi-frère flambeur avec une maîtresse, alors qu'il est bien marié, une ravissante doctoresse. Et le soir, ce même demi-frère joué par Thomas Jouannet débarque chez lui.
Tu sors ?
Oui, le dîner mensuel à la conférence des avocats.
Et moi qui espérais qu'on la boirait ensemble cette bouteille ?
T'as pas déjà assez bu pour ce soir ?
Non, 2 verres. Et puis c'était l'occasion de discuter.
Tu veux qu'on parle de quoi ? De Sveta ?
Sveta, c'est un phénomène. C'est vrai, moitié cinglé, moitié artiste.
Tu sais, quand elle me regarde comme ça avec ses petits yeux de biche en chaleur,
c'est impossible de résister.
Pourquoi t'as essayé ?
Voilà. Le lendemain, changement de ton au cabinet de Julien.
Vous partez maintenant ?
Oui.
Votre rendez-vous ?
Quel rendez-vous ?
Ma rendez-vous, paraît-il ?
Je suis dans la merde.
T'as déjà entendu ça ?
Non, mais là, vraiment. Sveta a disparu.
A disparu avec quoi ? Tes cartes bleues, l'argenterie ? Inquiétude après la disparition d'une jeune femme.
Voilà, et là, le piège est en place. Il va se refermer sur notre avocat un peu mûr. L'intrigue est formidable. C'est de la mécanique de précision, une montre suisse pour un monstre bien français, vous verrez. Vraiment, les 5 dernières minutes sont formidables.
Votre autre coup de cœur, c'est Scène de ménage sur M6.
Oui, l'un des succès de l'été, près de 4 millions de fidèles que l'on retrouve toujours à 20h25. La saison 9 a démarré hier sur M6, suivie ce soir à 20h50 par une spéciale inégale. Hein. D'ailleurs, c'est plus un fil conducteur que de véritables sketchs. Mais c'est sympathique et puis ça permet à nos couples d'âge différents d'aller passer des vacances en différents endroits de la Riviera, c'est le titre. Je rappelle que comme des droits de parallèle, nos couples ne se rencontrent toujours pas. Les seniors Huguette et Raymond vont par exemple voir des amis retraités sur la côte, Jean Benguigui et Grâce de Capitani, chez qui ils arrivent tard.
Mais vous en avez mis du temps. Non, on m'en parle pas, il a voulu passer par Montélimar. Alors on a perdu 2 heures.
Un bouchon ?
Non, un nougat.
2 heures pour trouver un dentiste.
Voilà.
Ah ouais. Jamais
la trentenaire Emma.
Facile,
moi aussi. La trentenaire Emma doit, elle, tenir la buvette de plage de son père, Lionel Astier, avec son mari Fabien qui n'a ni bon sens ni sens des affaires.
J'attends, j'ai fait les courses.
Ah, cool.
T'as pris des gobelins en plastique, ouais. Des pailles, serviettes en papier, super. C'est quoi ça?
Des pchis de poulet.
Diffuseur d'odeur, poulet rôti. Pourquoi t'as pris ça? Ça sert à rien.
Mais si, c'est du marketing olfactif. C'est pour booster nos ventes. Ça diffuse une odeur de poulet rôti. Comme ça, ça donne envie d'acheter.
D'acheter du poulet rôti?
Ouais.
Très bien. On fait pas de poulet rôti.
Voilà, on retrouve les jeunes, Cédric et Marion sur un yacht, le pharmacien à un congrès de pharmacie avec sa copine plus jeune, les quadras Liliane et José, au casino, pas celui où on fait ses courses, hein, celui où on perd son argent. Mmh. Et on termine, allez, par nos seniors, attablés dans un bar, Raymond commente la tenue panthère de sa femme, qui a par ailleurs osé un énorme collier fuchsia.
Coucou. Huguette, t'as déjà vu des léopards avec du fuchsia dans la nature?
Bah non.
Et tu t'es jamais demandé pourquoi?
Bah non.
Parce que les léopards, ils sont pas cons. Ils savent très bien que le fuchsia, ça leur va pas du tout. Observe la nature, Huguette. Observe la nature. Oh, qu'est-ce que tu prends?
La fuite.
Voilà.
Il est
elle
toujours
prend
aussi aimable,
la fuite
lui.
Et la porte, voilà, la suite sur M6. C'est vrai que cette saison, il va y avoir de l'eau dans le gaz entre eux, jusqu'où on verra bien.
On va suivre tout ça avec plaisir. Dans quelques instants, on se sépare avec toute l'équipe et on accueille Julien Courbet. Merci à toute l'équipe de Laissez-vous tenter, on se retrouve. Ça m'arrive une fois de temps en temps. Laissez-vous tâter, ça mange pas de pain.
Mais
on va retrouver
mais
tout de suite Julien Courbet avec ce tube que nous adorons tous.
Tonton de Comont est revenu, les PV, les arnaques, il en a cul cousu.
Il est là, oui, effectivement. Ah oui. Il n'est pas le seul, il est là aussi avec la belle Maître Fellonneau. J'ai beaucoup aimé la façon dont Bernard Lehu l'a décrit ce matin.
Enlevé à l'âge de 7 ans au Soudan par des trafiquants d'esclaves, vendu, humilié, martyrisé, puis libéré par un diplomate italien, converti au catholicisme, devenue religieuse, elle sera la première sainte noire et africaine.
J'ai pas compris par contre. Visiblement, vous n'avez pas notre studio en vidéo.
Ça, c'est sûr que je vais sanctifier un jour, bon. Ça c'est sûr.
Ceci étant dit,
oui, pour avoir travaillé avec lui pendant des années. C'est ça.
Ce qui fait que votre matinale est la première, c'est que vous avez vraiment le sens des questions. Et celle que vous avez posée ce matin. On s'est réunis en famille et on s'est longtemps demandé ce que vous vouliez dire.
Et vous êtes sûr, au moment où nous parlons, que la dissuasion reste dissuasive?
Alors, on s'est posé la question, est-ce que l'invasion est invasive? Et mon fils m'a dit, mais papa, est-ce que la compulsion est compulsive? Et j'ai dit, écoute, je ne sais pas, on va voir avec Calvi. Oui. Et puis le scoop de la matinée, c'est bien sûr que, contrairement à ce que tout le monde pense, vous ne faites pas l'émission depuis le studio RTL, vous la faites bien depuis chez vous, avec des amis.
D'agrandir votre maison, de créer une pièce lumineuse en plus ou encore de couvrir votre piscine.
Mon Dieu, j'ai honte.
Donc, il y a un apéritif qui est servi avec ses copains et pendant ce temps-là, dans un coin, la pauvre Sandrine Alexis qu'on a mis quelque part essaie de faire son métier et lui sert des coups comme ça.
Bah, voilà, on était en train de prendre des petits apéritifs.
C'est vraiment nouveau. Bravo mon Yves et félicitations.
Chez nous.
Ah oui, il y a une bonne ambiance. Hein.
Félicitations pour hier soir, votre émission était très réussie, monsieur Calvi.
Merci.
Je vous souhaite une bonne journée.
Bonne
Nous
journée
sommes
à vous.
Sur RTL, mesdames et messieurs.
Vous écoutez RTL.